à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Information en ce jeudi 14 décembre. Le Témiscamingue ontarien aura désormais un lieu dédié aux sans-abri, le Zach's Crib, situé à New Liskeard, qui est né de l'initiative de M. Yves et Mme Liane Payet. Le centre d'hébergement est maintenant prêt à accueillir ses premiers visiteurs, une ouverture que les initiateurs du projet souhaitent discrète.
On n'a pas donné une date spécifique aux gens parce qu'on veut faire ça discrètement. Puis on avertit tous nos partenaires de santé ici dans la région, comme les polices, les ambulances, le centre de santé, santé mentale. Puis de là, si on a des clients, clientes ou quelqu'un qui connaissent dans la région, mais là, ils peuvent les avertir puis venir.
Yves et Liane Payet travaillent à la mise en place de ce centre d'hébergement pour itinérants et personnes vivant avec des problèmes de santé mentale depuis déjà 5 ans. Cette initiative est née de leur propre expérience, alors que leur fils, Zach, vivait avec des problèmes de santé mentale et qu'il n'arrivait pas à trouver les bonnes ressources à proximité.
Il fallait faire la décision de le mettre dehors. Puis ça, c'est comme un temps de l'année comme ceci où on le mettait dehors, mais il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de place pour lui aller. On avait Sudbury, North Bay ou Timmins. Ça nous a vraiment... Oui, c'est dur sur l'enfant, mais je pense que c'est encore 10 fois plus dur sur le parent. Tu veux les soigner, tu veux les aider, mais là, quand c'est au-dehors de tes capacités ou ce que tu te sens plus sécure, il faut faire une décision.
Afin qu'aucun autre parent ne vive cette expérience éprouvante, ils ont entamé des démarches pour mettre sur pied ce centre d'hébergement.
On est à bout de former un comité où ce qu'on a plusieurs qui siègent dessus, toutes des têtes du monde qui ont déjà fait ça. Puis ensuite, on a embauché un consultant, Jason Cerita de Timmins, où ce que c'est ça sa spécialité, les sans-abri. Puis de là, on l'a embauché, même il a travaillé la première année pour nous pour gratuit, tellement qu'il croyait dans notre vision, notre mission.
L'organisme Zach's Crib est enregistré comme organisme de charité et grâce à plusieurs subventions et campagnes de financement, un édifice a été construit et une directrice ainsi qu'un coordonnateur ont été embauchés pour veiller au fonctionnement du projet.
Notre mission, c'est personne ne devrait coucher dehors. Soit on a 12 lits, ensuite on a un 13e lit en cas de quarantaine. Puis on les accommode de 10 heures le soir jusqu'à 8 heures le matin. On lui fournit un petit déjeuner le matin avec notre coordinateur s'ils veulent changer leur situation de vie. C'est là où on essaie de le brancher avec nos partenaires dans la communauté, soit santé mentale, Ontario Housing. Nous autres, on ne fournit pas les ressources telles quelles, mais on les branche avec les ressources qu'ils ont besoin pour changer leur vie.
Près de 10 ans après avoir cherché de l'aide pour leur fils, Yves et Liane sont heureux de pouvoir dire qu'il s'est repris en main malgré qu'il n'ait pu trouver les ressources au moment où ils en avaient besoin. La concrétisation de ce centre d'hébergement concorde finalement aussi avec une hausse marquée du nombre de personnes en situation d'itinérance dans la région, mais aussi à la grandeur de la province.
À place de se choquer contre les ressources, se choquer contre le gouvernement, on peut prendre cette énergie-là, puis la prendre, puis faire quelque chose de bon avec quelque chose de positif à la place, parce que c'est trop facile d'être négatif.
Dernière journée de grève aujourd'hui pour les 420 000 syndiqués réunis en front commun. Dans le but de faire bouger les négociations, les grévistes du Témiscamingue se sont réunis hier pendant quelques temps au feu de circulation à Ville-Marie pour faire entendre leur voix. Monsieur Jean-Claude Major, président de la Fédération des professionnels de l'éducation en milieu scolaire du Nord-Ouest, souhaite que les choses avancent.
On n'est pas content. On veut une entente avant Noël. On le mérite. Les gens nous disent qu'on est dans la rue pour nos salaires. On n'est pas dans la rue pour nos salaires. On est dans la rue pour les services publics. Il faut se mettre ensemble pour dire au gouvernement on a le droit d'avoir des services publics, pas juste pour les riches, mais pour tout le monde. La classe moyenne diminue, les riches s'appauvrissent et le gouvernement, il s'en lave les mains. Ça suffit. On recule plus.
Sophie Paquin, présidente du Conseil provincial du soutien scolaire pour l'éducation, espère que les choses se règlent avant Noël.
On est quand même un beau groupe, on est encouragés, mais on a hâte qu'il se passe quelque chose. Parce que comme c'est là, on est un point mort, on n'a pas tant de nouvelles, mais on espère que c'est parce que ça travaille aux tables.
Cette dernière journée de grève aujourd'hui pour le Front commun se fait dans une ambiance familiale.
Nous, on est situé au marché public, puis là, on fait ça un volet familial. On invite nos gens à venir nous rejoindre avec leurs enfants. Peut-être que le Père Noël va venir faire son tour. On espère que ça va être notre dernière. On espère que c'est une belle entente de principe qui va nous amener à retrouver les conditions, puis le rattrapage salarial, entre autres, mais toute la question de flexibilité aussi, les conditions dans le milieu pour les enseignants puis pour le soutien par le FEMA.
Rappelons que le premier ministre François Legault a déclaré hier matin, en arrivant à l'Assemblée nationale, qu'il était optimiste quant à la conclusion d'une entente avec le milieu de l'éducation avant Noël, mais que les négociations avec les syndicats du secteur de la santé étaient plus difficiles. Le Conseil du statut de la femme a produit une mise à jour de son rapport régional sur la représentation des femmes dans les instances décisionnelles et la sphère politique. De façon générale, on y constate que les femmes de la région sont bien représentées dans les conseils d'administration et ce, principalement dans les milieux de la culture à 67 % ainsi que de l'éducation où elles représentent 56 % des conseils de nos centres de services scolaires. Madame Mariella Collini, agente de recherche à l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, nous donne plus de détails.
Effectivement, là, les proportions souvent sont beaucoup plus importantes dans la région en culture, en éducation, santé, tourisme aussi. Donc, il y a vraiment des éléments qui sont positifs à cet égard-là. Mais pour d'autres secteurs d'activité, on se rend compte qu'effectivement, on va avoir du travail encore à faire pour faciliter possiblement le positionnement des femmes dans certaines instances.
Du côté des instances décisionnelles ou politiques de la région, on observe principalement des gains ou une relative stabilité de la représentation féminine par rapport aux données de 2018. À titre d'exemple, la proportion de mairesse a progressé de 17 à 25 % alors que celle des conseillères est demeurée similaire, soit de 44 à 43 %.
C'est sûr que c'est toujours des acquis qui sont fragiles. On le voit même avec la sphère politique où on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts. Même si on se compare avantageusement tant au poste de mairesse que de conseillère par rapport au Québec, il reste que c'est tout de même des proportions qui ne sont pas si élevées que ça.
Voilà ce qui complète ce bulletin d'information. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.